Merci. Merci Vincent pour l'organisation du colloque. Et bon, je vais tout de suite commencer et je vais lire mon texte en espérant que mon français ne sera pas trop mal. Les historiens ont depuis longtemps focalisé l'attention sur l'attitude de l'Église catholique vers les politiques et les idéologies des régimes totalitaires des années 30 en Europe. Il y a désormais une littérature copieuse sur la position des épiscopats nationaux, de la presse catholique et enfin du Saint-Siège envers le racisme et l'antisémitisme. À partir de mes recherches sur le pontificat de Pie XI, dans mon intervention, j'essayerai de faire synthèse, surtout des positions de la Curie romaine. Mon rapport sera divisé en trois parties. D'abord, j'essayerai de montrer comment la doctrine catholique a répondu à la diffusion des théories pseudo-scientifiques sur la race entre le XIXe et XXe siècle. Puis, je vais résumer les principaux actes du Saint-Siège qui concernent le racisme dans les années 30. Et finalement, je vais analyser plus en profondeur quelques documents et discours de Pie XI, surtout dans la dernière année de son pontificat. Les premiers problèmes qu'il faut aborder concernent la question doctrinale. Comment se situe la doctrine catholique du XIXe et XXe siècle dans le débat sur l'existence des races humaines, sur la répartition entre races supérieures et inférieures, et par conséquent, sur la légitimité des discriminations raciales par les régimes fascistes et allemands et italiens. En 1879, la revue des jésuites italiens, La Civiltà Cattolica, publia une critique du livre en quatre tomes, Les Splendeurs de la foi, accord parfait de la révélation et de la science, de la foi et de la raison, par l'abbé Moignon, chanoine de Saint-Denis, qui, comme le titre le suggère, s'est proposé de démontrer qu'il n'y avait aucune contradiction entre les découvertes de la science moderne et le contenu de la révélation. Mais en disputant la question de l'origine de l'homme, l'abbé Moine revendiquait l'unité de l'origine de l'espèce humaine, comme il est écrit dans la Bible, contre les sciences qui la niaient. Il citait, en appui de sa thèse, des noms d'anthropologues qui s'étaient exprimés en faveur du monogénisme, comme par exemple Quatre Fauges, qui sera reprise dans une autre source dont on parlera plus tard. L'origine d'un seul Dieu assurait des attributs fondamentaux identiques pour tous les hommes, et même s'il existait des différences entre eux, Moigne exaltait le mélange des races qui donnait plus de fécondité. Pour répondre aux thèses de la science moderne et de la recherche d'une correspondance entre les éléments somatiques et les caractéristiques spirituelles des groupes humains, l'Église catholique est obligée de s'occuper du thème de la race et d'essayer de donner une réponse doctrinale à la discussion autour de l'origine de l'homme. Après la Première Guerre mondiale, des thèmes comme l'identité nationale, la question démographique et théogénique deviennent centraux. Au cours des années 20, la doctrine catholique se confronte avec des nouvelles théories qui prétendent d'être scientifiques. L'eugénisme, c'est-à-dire l'étude des méthodes de prévention et d'amélioration de la race, devient le sujet d'un débat aux États-Unis et en Europe. Le but de l'eugénisme était de régénérer une société à travers une planification rationnelle des naissances, en favorisant la reproduction des meilleurs exemplaires humains et en décourageant la reproduction des individus malades. On parlait alors d'eugénisme positif et négatif, ce dernier étant contrarié par l'Église. Dans la conclusion du congrès sur l'eugénisme qui eut lieu à Naples en 1924, il fut établi que les contrôles des naissances ou l'empêchement artificiel de la génération étaient condamnés par la morale catholique. Par contre, il était reconnu, je cite, que le perfectionnement de la race est une honorable intention, mais qu'on doit l'attendre seulement avec providence sociale et hygiénique, avec une propagande instructive et surtout avec la diffusion de l'éducation chrétienne. En 1930, dans l'encyclique Castico Nubi, le pape Pie XI condamna autant le divorce, l'avortement, l'union libre et le mariage civil que, et surtout, la contraception, et donc la limitation volontaire des naissances, et la stérilisation. Néanmoins, il y avait une partie du discours de Pie XI dans lequel il admettait qu'il était convenable de dissuader le mariage entre deux individus qui pourraient avoir des enfants défectueux. En 1932, dans le congrès des médecins catholiques de Florence, furent confirmés les traits d'eugénisme catholique. Chasteté comme forme de birth control, la modération comme sauvegarde des dommages de l'alcoolisme, le sacrement du mariage pour empêcher les phénomènes des fils illégitimes. Le compromis idéologique et politique entre le régime fasciste et l'Église catholique fut décisif pour l'affirmation d'un eugénisme latent. Les années 20 et 30 sont caractérisées par la mise en place d'une synergie entre la science de la race et la politique totalitaire, laquelle met le racisme à la base de son idéologie. En septembre 1933, le Saint-Siège montre sa préoccupation pour la composante raciste du nazisme dans une note anonyme écrite par un employé du secrétariat d'État des Pie XI. Les documents soulignaient les contradictions entre la doctrine chrétienne et l'idéologie raciste, selon laquelle les qualités morales des individus et toutes les valeurs humaines dérivaient et résidaient dans les peuples nordiques. Le secrétaire d'État, Eugenio Pacelli, écrivit alors à Hitler que l'absolutisation de la pensée raciale était une faute. Tandis qu'en Allemagne, le 1er janvier 1934, entre en vigueur la loi sur la stérilisation obligatoire comme prévention contre la progéniture affectée par les maladies héréditaires, le 7 février, le Saint-Office signa le décret de condamnation du livre d'Alfred Rosenberg, Mythos des 20. Jahrhunderts, qui prêchait la religion de la race. L'opposition de l'Église catholique au racisme faisait référence à l'unité du genre humain et à son origine commune en Dieu. On insistait sur le caractère accidental et pas essentiel des différences entre races. En Europe centrale, en Autriche, Suisse, France, il y avait des groupes de catholiques anti-nazis qui ont essayé de réfuter le racisme et l'antisémitisme, comme par exemple le théologien Johannes Österreicher, Jacques-Marie Tain, Dietrich von Hildenbrand, Waldemar Gurion et beaucoup d'autres. En Allemagne, le plus connu et suivi était l'anthropologue Wilhelm Schmidt, directeur du musée pontifical missionnaire ethnologique du Latran. En se remettant aux études de John Connolly pour les détails sur ces personnages, il est suffisant de rappeler que Schmidt fut considéré à l'époque comme un adversaire du racisme. En réalité, dans le cadre de l'anthropologie catholique, il théorisa l'existence des différences entre races, mais pas une hiérarchie entre elles. En 1935, il publia en allemand le livre « Race et nation », qui devint un texte de référence pour les catholiques sur ce sujet. Dans ce livre, Wilhelm Schmidt définissait la race comme, je cite, « un ensemble somatique héréditaire » qui s'opposait au concept de peuple, folk en allemand, et des nations, entendues comme unité culturelle, linguistique, spirituelle, religieuse et politique. Il n'était pas possible de parler des races pures, car les races étaient une notion, une entité plus dynamique. Mais par contre, l'Église pouvait accepter l'idée des nations qui s'était développée dans les peuples allemands grâce au catholicisme romain, qu'il avait en même temps développé et rendu grande. Pour résumer cette première partie, il faut remarquer que l'Église catholique, sur la question de la race, n'avait pas utilisé que les Écritures, les moyens théologiques dont elle pouvait disposer, mais elle avait essayé de répondre à la science avec la science et son langage. Le mot « race » et sa notion furent acceptés et adaptés à la doctrine catholique. L'existence des races ne fut pas niée. Mais en octobre 1934, la Congrégation du Saint-Office commença à élaborer une étude interne sur la doctrine raciste national-socialiste, qui aurait dû mener, dans les intentions de ses promoteurs, à une encyclique ou à un syllabus d'erreur à condamner, qui était le nationalisme radical, le racisme et le totalitarisme. Les votats des consulteurs, c'est-à-dire les consultants du Saint-Office, admettent, sous la vigilance du magistère catholique, une activité scientifique pour le perfectionnement et la sauvegarde de la race, et révèle que le racisme, qui était nettement condamné, était celui de la doctrine nazie, à savoir dans sa forme biologiste et néopéenne, qui visait à soustraire l'homme à la religion transcendante. En 1937, dans le votum pour la condamnation d'un livre écrit par l'écrivain italien Giulio Cogni, Le racisme, un des consulteurs avait fait une distinction entre le racisme extrême et le racisme modéré, lequel, je cite, « cependant, il exagérait la valeur du sang et de la race, n'affectait pas les vérités fondamentales de la philosophie et de la religion chrétienne. » Il y avait donc une idéologie raciste qui pouvait être acceptée par la doctrine catholique, mais qui finalement n'était pas davantage décrite comme dans les documents du Saint-Office. Donc on ne sait pas en fait qu'est-ce que c'était ce racisme modéré. Mais ce qu'on sait est que le racisme accepté, c'était celui qui n'était pas en contradiction avec la doctrine catholique. Donc si le Saint-Office disait ça c'est acceptable, c'était acceptable. Finalement, Pie XI décida de ne pas promulguer la condamnation officielle du racisme. Il est probable que les violentes réactions allemandes à l'encyclique Mitbrennen der Sorge du 14 mars 1937 avaient convaincu le pape à se maintenir plus prudent. L'encyclique portait sur la condition de l'Église en Allemagne et avait été créée par Pacelli sur un brouillon de l'archevêque de Munich, le cardinal Faulhaber. Le secrétaire d'État avait probablement utilisé aussi les documents sur le nationalisme, national-socialisme et le racisme produits par le Saint-Siège. Et sur la question du racisme, l'encyclique proclamait que, je cite, « quiconque prend la race ou le peuple ou l'État ou la forme de l'État ou les dépositaires du pouvoir » ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine, et les divinise par un culte idolâtrique, celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu. Celui-là est loin de la vraie foi en Dieu et d'une conception de la vie répondant à cette foi. Au cours de l'année 1937, le Saint-Siège s'occupe encore de la question de la race à cause d'une loi promulguée par le gouvernement italien, connue comme la loi sur le madamato, après la conquête de l'Éthiopie. Le madamato, c'était un contrat de concubinage entre un homme italien et une femme éthiopienne. Le décret Lessona du 24 juin 1937 interdisait les liaisons matrimoniales entre un citoyen italien et un individu sujet de l'Afrique orientale italienne. Avec cette loi, Mussolini voulait éviter la formation des métis. Les missionnaires en Afrique demandaient au Saint-Siège comment il devait se comporter face à cette loi. La réponse du préfet de la Congrégation des Sacrements confirmait le point de vue catholique selon lequel les différences raciales ne constituaient pas un empêchement aux unions matrimoniales. Mais finalement, en appuyant la politique du gouvernement, qui défendait la santé de la race, il assurait que les missionnaires auraient été instruits, enfin, je cite, d'empêcher de telles unions hybrides pour les sages raisons hygiéniques et sanitaires entendues par l'État. Donc, il sauvait formellement les principes antiracistes et utilisait l'eugénisme positif pour arriver à un compromis avec le gouvernement italien. Si avec un acte de magistère comme l'encyclique Mitbrennen der Sorge, Pie XI avait déjà en passant exprimé sa condamnation du racisme, c'est dans l'année 1938 que ses refus devint de plus en plus définitifs. Malgré le fait que le pape avait décidé de bloquer la procédure d'édition d'une condamnation officielle du racisme l'année précédente, Il avait donné aussi l'ordre aux consulteurs du Saint-Office de poursuivre dans la lutte contre l'idéologie raciste. Il commença alors à travailler sur la création d'un conseil de vigilance sur la presse pour contrôler que ne fussent pas publiés des articles racistes ou des comptes rendus de livres sur ces sujets. En janvier 1938, le projet de statut de ce conseil fut présenté. Il devait rassembler toute la presse périodique et les livres sur ce thème et les signaler à l'autorité religieuse locale qui devait donner l'ordre de réfuter ces idées. Le 13 avril 1938, Monseigneur Ernesto Ruffini, secrétaire de la Congrégation des séminaires et universités, envoyait au nom du pape une lettre au directeur des universités catholiques et des séminaires, dans laquelle il demandait de s'engager dans leur enseignement à réfuter les doctrines allemandes sur la race humaine. Cette mission avait été donnée à Ruffini directement par les papes. La lettre, publiée par la presse catholique à partir des premiers jours de mai, contenait 8 arguments racistes qui devaient être réfutés, dans le style d'un syllabus des erreurs à condamner. Il me semble donc que la stratégie du Saint-Siège, après l'encyclique Mit Brennender Sorge, est-elle celle de renoncer à d'autres prises de position officielles et de déléguer la responsabilité de condamner le racisme aux institutions ecclésiastiques et aux représentants de la culture catholique. Une tâche renouvelée précisément en concomitance avec la publication de la lettre de Ruffini. Le 2 mai, en fait, le Saint-Office chargea le secrétaire de la congrégation consistoriale, le cardinal Carlo Rossi, de recommander aux évêques de surveiller tout livre et publication périodique qui fussent porte-parole, je cite, des nouveaux et dangereux courants de pensée. En outre, il y a encore une note du secrétariat d'État de l'automne 1938 qui éclaircit cette stratégie. Il faudrait solliciter surtout le clergé italien pour limiter la diffusion et la pénétration de l'idéologie raciste parmi les catholiques. Il faudrait aussi agir avec insistance dans les séminaires, surtout en Italie, où, à partir des accords entre Mussolini et Père Tacchi Venturi du 16 août 1938, le gouvernement fasciste avait interdit la dissertation du thème dans la presse catholique italienne. Entre 1937 et 1938, la campagne raciste et spécialement antisémite du régime fasciste italien a commencé. Après la publication du Manifeste des savants racistes en juillet 1938, si la presse catholique italienne nationale et diocésaine essaye de rassurer que le racisme italien ne va pas être le même du racisme allemand, le pape est d'un tout autre avis. En 1938, un tournant décisif a eu lieu dans l'esprit de Pie XI. Et c'est sur cette figure que je voudrais concentrer la toute dernière partie de mon intervention. En juin, le pape reçoit en audience le juif américain John Lafarge, auteur d'un livre intitulé « Interracial Justice ». Pie XI lui avait dit que la question du racisme lui tournait tous les temps dans la tête, qu'il avait lu son livre et qu'il les trouvait le meilleur en comparaison avec la littérature européenne sur les sujets. Et enfin, il lui commissionna l'écriture d'une encyclique qui sera la très connue encyclique cachée Humani Generis Unitas. La confirmation de la priorité que Pie XI donnait à la question du racisme vient des discours qu'il prononce pendant le mois de juillet 1938. En synthèse, dans ses discours, le pape avait condamné le nationalisme exagéré qui dressait, je cite, des barrières entre le peuple qui étaient en contraste avec la doctrine catholique. Il avait dit « L'esprit du nationalisme est contraire à l'esprit du credo. Il est contraire à la foi. » Ensuite, il précisa que « catholique veut dire universel, non pas raciste, nationaliste ou séparatiste. Que tous les genres humains est une seule, grande, universelle race humaine. » Et l'idée que l'idée d'universalité de l'Église catholique pouvait comprendre aussi l'idée des races, d'espèces, l'idée des nations, des nationalités, cependant, bien entendu, à leur place. Mais le pape, enfin, notait que les latins ne disaient pas race. Il avait des mots plus civils, moins barbares. et que si l'on n'appelait pas les choses avec ces noms, on finissait par perdre même le sens des choses. Qui confirme l'extrême priorité réservée à la question par le pape. Par conséquent, Cordovani avait rédigé un rapport sur les questions des espèces, donné à Pie XI en novembre 1938. Pour ses pamphlets, il avait utilisé, entre autres, les ouvres de Schmitt et Quatre Forges, qu'on a déjà nommées avant. Avant tout, il faut remarquer que Cordovani démontrait leur appel à recommandation de Pie XI de faire attention au langage. Il parlait de stirpi, c'est-à-dire espèce, je ne sais pas comment on traduit en français, en ajoutant, entre parenthèses, « aux races, comme on dit couramment », une spécification pour faire comprendre de quoi il parlait, mais en même temps pour en prendre les distances. Cordovani enfin soutenait qu'on pouvait comprendre et accepter l'existence d'une ramification de l'espèce humaine en deux facteurs environnementaux, mais il refusait la fausse doctrine philosophique qui, je cite, « à partir de quelques caractéristiques morphologiques et malheureuses conditions de vie, avait l'arrogance d'envahir le domaine de l'âme ». D'un point de vue catholique, les honnêtes recherches sur la race étaient légitimes. L'intention de regarder la pureté et les caractéristiques d'un peuple pour approfondir les sentiments d'unité nationale ainsi que l'unité des sangs, mais n'était pas permis un antagonisme déclaré. Pie XI intervient publiquement sur la question et demande aussi l'aide des autres pour condamner le racisme. Tout avait eu pour origine la graduelle prise de conscience de la cruauté du régime nazi, pas tant pour l'antisémitisme, mais plus par la lutte qu'il avait engagée contre l'Église catholique. Néanmoins, Pie XI ouvre finalement les yeux quand le régime italien commence à entreprendre lui aussi une politique raciste et antisémite. C'est avec l'éclat du cas italien que la question de l'antisémitisme devient à l'ordre du jour dans la tête du pape, qui, comme vous avez peut-être remarqué, n'était pas été évoqué dans les documents sur la question du racisme. On n'a pas parlé d'antisémitisme. Les premiers jours d'août 1938, Pie XI commanda à ses collaborateurs d'écrire une lettre à Mussolini sur les Juifs, où fut écrit que les mesures discriminatoires contre eux seraient considérées antichrétiennes et inhumaines. Plusieurs phrases prononcées par le pape en privé et en public, sur lesquelles nous n'aurons pas le temps de nous attarder, démontrent que le pape avait commencé à repenser la relation entre christianisme et judaïsme. Il avait en fait insisté sur les fondements judaïques du Christ et du christianisme. Le problème juif n'était pas une question de race pour lui, étant la race reléguée, si elle existait comme il avait douté, aux sciences naturelles. Le baptême, en tout cas, effaçait l'origine raciale. En fait, la question juive, pour le pape, était une question religieuse. Est-ce que le pape avait jusque-là sous-estimé l'antisémitisme racial après une condamnation qu'il avait faite en 1928? Oui, et les raisons sont multiples. Il y avait eu le conditionnement d'un très traditionnel antisémitisme catholique avant. La politique antisémite en Allemagne était considérée politique interne et l'ecclésiologie, surtout, à l'époque, posait les catholiques au centre et les juifs n'étaient pas considérés une priorité dans la politique du Saint-Siège jusque-là. Mais en 1938, dans l'esprit de Pie XI, il devient plus clair que pour s'opposer de façon définitive à l'antisémitisme racial, il fallait considérer la question théologique, qui avait jusque-là empêché sa véritable condamnation sans distinction. Mais il a eu juste le temps de débaucher cette réflexion avant de mourir. Et après sa mort, son successeur, Pie XII, changea sa politique envers le Reich, évita la promulgation d'une condamnation définitive du racisme et de l'antisémitisme, dans l'espoir, bientôt déçu, de négocier avec Hitler des solutions favorables à l'Église catholique.
Merci beaucoup, cher ami, pour cet exposé très intéressant et félicitations pour votre français.
Merci.
Et je passe maintenant la parole. Alors, on a fait déjà Paris, Venise, l'Italie, et maintenant, alors, on va beaucoup plus loin à Olivier Cibre.
Ça fonctionne.
Non, il faut appuyer sur
le... J'ai appuyé, mais... Oui, voilà, ça y est, ça marche. Voilà. Alors, d'abord, je me permets juste de dire que j'ai été très intéressé par l'exposé précédent qui situe un certain nombre de choses conceptuelles sur le racisme, la théologie qu'il y a derrière. Et on note de nouveau, au niveau du Saint-Siège, à la fois les expertises théologiques, les contextes politiques ou diplomatiques, internationaux, qui jouent sur ces appréciations, puisqu'on a une structure qui est religieuse, politique, diplomatique, etc. Alors moi, je vais essayer de vous parler modestement de la position de l'Église, en particulier du Saint-Siège vis-à-vis du Japon. Ça passe par la question de l'évaluation du Shinto civil, ce qu'on a appelé ou ce qu'ils ont appelé, les missions ont appelé le Shinto civil, et comment on arrive vers la question plus précise du racisme au Japon éventuellement, et ce qu'en ont dit les représentants du Saint-Siège. Alors avant toute chose, je me permets juste de faire passer ce petit document donc, sur lequel je me suis notamment appuyé. Qui est donc un rapport, une ponenza, c'est-à-dire un gros dossier avec un rapport et plusieurs documents pour que les cardinaux concernés au Saint-Siège puissent évaluer le Shinto civil, sa dimension religieuse ou non, et si les catholiques doivent ou peuvent participer aux cérémonies patriotiques japonaises. Donc, cette communication tente de saisir le positionnement catholique à l'égard de la politique, des idéologies et des pratiques socioculturelles japonaises dans les années 1930, en pleine époque de mobilisation militaire, on le sait, et sur une pente totalitaire, exactement autour des années 1936-1938. L'Église catholique se retrouve confrontée dès les années 1880 à de profondes mutations politiques, législatives et constitutionnelles au Japon, comme d'ailleurs l'ensemble des églises protestantes ainsi que les autres cultes traditionnels du Japon. En 1890, la constitution japonaise autorise la liberté religieuse sous certaines conditions. Un bureau des religions gère les cultes du Japon, ministère de l'éducation, et un autre est chargé du nouveau Shinto ou Jinja Shinto, préfiguration d'un culte civil qui vise, on pourrait dire, à recoudre la tunique d'un Japon potentiellement divisé avec l'érection d'un État moderne et l'émergence d'une société civile. Le Shinto civil servirait, pour reprendre une expression, le réenchantement du monde au Japon et poserait de ce fait les mêmes problèmes à la constitution éventuelle d'un régime totalitaire que les religions civiles fascistes et nazies en Italie et en Allemagne. C'est une question que je pose, ce n'est pas une affirmation, bien entendu. La restauration Meiji signifie aussi l'élaboration juridique et politique d'un régime autour de la figure symbolique, tutélaire, unitaire et unificatrice de l'empereur, dont l'arbitrage, au moins, vaut largement, à mon sens, est beaucoup plus forte que sa position précédente avant les réformes de Mitsuhito. La question, et je renverrai ici aux réflexions sur le ténocentrisme et ensuite au débat des années 60 autour de Maruyama Masao, etc., reprenant les travaux d'Anna Arendt. La question du racisme au Japon est donc liée à la définition, compréhension du Shinto civil élaborée sous Meiji par les élites japonaises, pas forcément religieuses d'ailleurs. Des fonctionnaires et des hommes politiques ont pensé l'organisation et le financement du nouveau Shinto, le Shinto dit « traditionnel », entre guillemets, étant relégué à la gestion standard avec les autres cultes, y compris le catholicisme ultra-minoritaire, représentant moins de 0,5% de la population japonaise à la fin du XIXe siècle. Lorsque le gouverneur général à Séoul construit un grand temple à Séoul dédié aux kami impériaux, qu'il fait inaugurer ce temple en grande pompe au milieu des années 20 avec le transfert des rituels, il s'agit probablement plus que d'une annexion culturelle. En tout cas, c'est considéré comme un acte profondément religieux de la part des missionnaires et évalué comme tel. Comme il s'agit d'un culte civil, national, les Coréens, sujets de l'Empire, doivent tous s'y rendre et respecter les rites des cérémonies patriotiques japonaises, constituées d'un panthéon militaire de héros, quasi divinisés, de toute façon protégés par l'esprit des ancêtres impériaux. Or, l'Église catholique autorise en 1936 la participation aux cérémonies patriotiques et civiles japonaises, obligeant de facto et par conséquent tous les sujets de l'Empire japonais catholique à s'y rendre, puisqu'il n'y a plus d'incompatibilité avec la foi catholique. L'Église prêche par ailleurs sa bonne soumission aux autorités officielles au Japon, comme en Corée, au moins depuis 1919 et le soulèvement du 1er mars en Corée. Évoquer les cérémonies patriotiques et civiles japonaises, c'est le titre de la ponenza que je vous ai fait circuler, signifie donc entrer dans la compréhension des liens étroits entre religion, culture, politique, société au Japon et s'intéresser à leur mobilisation au service de l'État, d'un État que certains qualifient de totalitaire à cette période, dans lequel la mystique nationale japonaise, le Kokutai, affirme une supériorité non pas seulement de culture, mais de facto de race, telle que, en tout cas, c'est évalué plus tard par le délégué apostolique et une partie des missionnaires. Dépendant du ministère de l'Intérieur, le Shinto civil renvoie donc à la sécurité intérieure et à la police, y compris la police des cultes, et renforcée d'ailleurs par la loi sur les corporations religieuses de 1939, mise sous tutelle matérielle mais aussi idéologique avec le contrôle des contenus liturgiques et doctrinaux. Dans ce contexte, donc, les cultes doivent prendre position. Très tôt, certaines sectes bouddhistes se méfient de l'affirmation de ce statut privilégié du Shinto civil. Et dans le même contexte, on se méfie également d'une position potentiellement privilégiée du catholicisme, puisqu'en 1921, la Diète débat, dans le cadre de la loi de finances, du dégagement d'une enveloppe pour l'érection d'une représentation japonaise auprès du Saint-Siège. Donc là, évidemment, ça soulève pas mal de polémiques, et finalement, la dite enveloppe n'est pas dégagée pour l'érection de cette représentation à Rome. Le 30 novembre 1919, le Saint-Siège a érigé sa première délégation apostolique permanente au Japon, avant celle même de Pékin en 1922. Et en 1934, c'est Mgr Paolo Marella, qui est issu du clergé romain et de famille romaine, qui est protégé par le cardinal préfet de la propagande chargé des missions, des territoires des missions, Mgr Fumazo Nibiondi, qui arrive donc au Japon et qui y reste jusqu'en 1949. Donc c'est lui qui gère toutes les affaires catholiques au Japon, les rapports avec les autorités jusqu'en 1949. Donc cette communication s'appuie principalement sur trois documents. Tout d'abord, la ponenza sur le sens de quelques cérémonies patriotiques et civiles japonaises, remise par le cardinal Salotti à une congrégation cardinaliste en mai 1936, et comptant 95 pages, dont 72 pages d'un rapport confidentiel de Mgr Marella. Ce document a servi bien involontairement au fond, par sa conséquence indirecte, le décret de la propagande Planecum Pertum de décembre 1939, qui fait tomber l'interdiction canonique des rites chinois. Donc, pour Marella, il n'y a pas du tout il y a une distinction nette entre les rites dits japonais, ou en tout cas les cérémonies, et les rites chinois, la fameuse polémique sur l'interdiction des catholiques à participer aux rites chinois, mais dans la logique romaine, il y a un prolongement, et on a ce décret de 39 qui permet à tous les catholiques de pratiquer ces rites dits chinois, mais encore les rites Siro-Malabar et Katanga en Afrique. Le Japon est d'ailleurs un horizon non seulement missionnaire, mais aussi politique, et diplomatique très fort pour le Saint-Siège, jusqu'à la réception du premier représentant diplomatique nippon au Vatican au printemps 1942. Dans un autre document, un opuscule publié en 1938, en février 1938, Vision d'espoir, Mgr Marella défend l'âme japonaise, la culture japonaise, on le verra. Et donc ces documents se retrouvent dans le contexte, en chasse d'une certaine façon, les trois encycliques, notamment l'encyclique Mitbrennender Sorge, consacrée à des questions doctrinales, politico-doctrinales, et qui sont publiées donc au printemps, en mars 1937. Enfin, un rapport de Mgr Marella qui est venu s'ajouter, que j'avais oublié, sur le pacte culturel germano-nippon, de 1938, et là on a un positionnement beaucoup plus clair sur ce qui pourrait être un racisme japonais naissant, ou en tout cas l'influence délétère de l'Allemagne nazie au Japon. Alors, tout d'abord, dans un premier point, le Saint-Siège et le Shinto civil. Donc, depuis 1916, par l'intermédiaire des différents représentants du Saint-Siège, Mgr Petrelli, Mgr Fumazo Nibiondi, Mgr Giardini, Mgr Munei, le Saint-Siège n'a pas cessé de demander un assouplissement de la législation japonaise concernant l'obligation des élèves, des étudiants, des fonctionnaires de se rendre au temple et de faire le sampai. En face, les autorités japonaises ne cessent d'affirmer qu'il s'agit d'un culte civil. Et en 1919, le catholique et futur aide-de-camp et même contre-amiral de l'armée japonaise, professeur de français du prince Hirohito, Yamamoto Shinjiro, s'appuie sur une littérature occidentale, il est catholique, en particulier la littérature française, pour comparer et distinguer le Shinto civil de l'antique paganisme romain. Parce que ce qu'on a noté tout à l'heure, c'est que dans l'analyse du Saint-Siège en Mitbrennender Sorge, il y a surtout une présentation du nazisme comme un néopaganisme. Hein, et c'est surtout ça qui ressort plutôt que la dimension plutôt scientifique. Et on se porte un peu sur ce volet-là pour essayer de comprendre ce qui se passe au Japon. Alors, la ponenza, le contexte de cette ponenza, donc Marella arrive à Tokyo en janvier 1934 et il a déjà passé 10 ans à Washington auprès de Mgr Fumazo Nibiondi, qui était devenu délégué à Washington et qui avant était délégué à Tokyo. Bon, alors il a fréquenté le milieu japonais aux États-Unis, l'élite japonaise, et là, il s'est fait pas mal d'amis dans le milieu diplomatique et une certaine idée du Shinto en question, des pratiques japonaises, et il arrive au Japon avec cette vision-là. Quand il arrive au Japon, il y a une forme de persécution, officiellement une expulsion des catholiques de l'île d'Oshima. Il y a 6000 catholiques sur cette petite île, donc c'est une très forte concentration de catholiques pour le Japon, en principe pour l'installation d'une base militaire, mais en fait, les rapports qui sont adressés à ce sujet sont beaucoup plus complexes. Donc Marella craint que, dans le contexte japonais, les choses aillent de plus en plus mal. Donc il veut trouver un accommodement. Et donc je pense que sa ligne principale, c'est pas tant de définir ou de condamner ce qu'est le Shinto civil, si ce n'est dire que c'est un culte civil ou de dire s'il y a un racisme ou pas au Japon, mais plutôt d'arriver à ce qu'il y ait une compatibilité acceptée entre le catholicisme et les autorités japonaises. Alors en fait, cette ponenza, elle arrive après une première note qui vient du Manchukuo. Parce que c'est au Manchukuo qu'au printemps 1935, Monseigneur Gaspet, qui a été chargé des relations officieuses entre l'Église, les missions catholiques locales et le gouvernement du Manchukuo, donne un certain nombre d'instructions sur la participation au nouveau culte de la voie royale instauré par les Japonais autour du nouvel empereur, ancien dernier empereur Puyi, et appelé Kangde. Et donc, dans ce cadre, le Saint-Siège doit se prononcer. Évidemment, Marella se retrouve obligé de se positionner. Il se trouve que Marella a énormément aiguillé Gaspet sur ce qu'il devait faire au Manchukuo, parce que Gaspet n'était pas un diplomate du tout. Et donc, il profite, en fait, de ce courrier envoyé par Gaspet. Je suppose fortement que Marella l'a incité à, tâter le terrain pour savoir ce qu'il allait se passer. Ensuite, il rebondit dessus pour proposer lui-même son évaluation des cérémonies au Japon. Alors, la ligne qui est développée par Marella, à l'intérieur de ce rapport, est éminemment, je dirais, empathique, voire sympathique à l'égard de l'évolution de la culture et des pratiques culturelles japonaises, voire de la vie politique au Japon. Alors, la ponenza est datée de mai 1936 et elle interroge les cardinaux sur deux points. Il y a ce qu'on appelle les doubis, enfin les doutes, les questions qu'on pose à la Commission. Un, s'il faut approuver dans son intégralité le projet d'instruction rédigé par le délégué apostolique au Japon, donc il envoie un projet, il faut le faire valider, et les éventuelles corrections apportées en cas de modification. La question de l'approbation n'est même pas posée, c'est-à-dire qu'elle est de facto validée. Ça, c'est vraiment extraordinaire, mais ça, c'est lié à des relations de patronage sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Bon. Et l'instruction corrigée passe ensuite immédiatement après validation au contre-saint du secrétaire de la propagande Costantini, qui était lui-même ancien délégué apostolique en Chine, et s'est publié dès le 26 mai 36 dans les Actes Apostoliques AC10. L'opération est donc extrêmement rapide pour une question de fond et cruciale. Je vous rappelle quand même que c'était la question de la participation au rite dit chinois, hein, bon, c'est assimilé plus ou moins à cette question-là, qui date du 17e, 18e siècle, et s'était conclu par une suspension de débat et une interdiction canonique de Benoît XIV en 1742. Donc là, on va le voir, en fait, Marella essaie de faire comprendre, en deux mots pour pas rentrer dans les détails, que la position des autorités japonaises sur la nature d'un culte civil et patriotique, et véritable, et qu'il n'y a plus d'engagement du fort interne, il n'y a plus de dimension religieuse. Donc, les cardinaux prétendent, à l'intérieur de cette ponenza, qui est, en tout cas dans leur introduction au document, connaître le Japon, je cite, « non pas à travers notre tournure d'esprit et notre sensibilité d'occidentaux, mais dans les manifestations concrètes de sa sensibilité et dans sa mentalité propre ». Mentalité et sensibilité qui constituent, je cite, le contexte nécessaire pour interpréter à leur juste valeur de telles cérémonies publiques et privées. En nombre porté de ce rapport se pose le problème évidemment de l'évangélisation au Japon avec, je cite, le soupçon que l'Église ne soit rien d'autre qu'un instrument de l'impérialisme culturel des puissances occidentales. Et la propagation systématique de cette accusation par les autorités pose de très sérieux problèmes aux catholiques japonais, notamment aux fonctionnaires. Alors, pour Marella, l'esprit, le cadre juridique, il le rappelle, est celui de la Constitution japonaise. C'est aussi celui du rescrit impérial sur l'éducation du 30 octobre 1890, qui pour lui est un petit peu la clé de compréhension de la Constitution et de son esprit. Et il rappelle que le 26 avril 1900, il y a eu un décret qui a institué le bureau des Jinja au ministère de l'Intérieur pour gérer ce culte civil. Alors, pour Marella, je cite, « chaque rite du nouveau Shinto exprime une idée morale excellente par elle-même et l'extériorité fut certainement modelé sur la vieille religion nationale qui ne faisait pas de distinction claire entre patriotisme et religion. L'idée morale n'en est pas moins légitime. Et Marella conteste même l'interprétation de certains Japonais qui voient dans le Shinto civil la restauration pure et simple de l'antique Shinto. Ce qui reste du Shinto permet d'alimenter, je cite, « le patriotisme et la fidélité ». Et plus loin, il dit que le Shinto civil est un instrument de formation patriotique et nationaliste des masses. Donc, par conséquent, il y a plus d'incompatibilité dans la mesure où c'est un outil politique. À tel point qu'en Corée, le délégué fait taire un missionnaire de Mérinol, docteur en droit canon, Mérinol, congrégation missionnaire américaine, qui développe une position problématique sur ce terrain, qui suscite, je cite, doutes et scrupules, parce que du côté protestant, en tout cas, on reste sur une position qui est de dire que le Shinto est un élément religieux qui sert à la domination culturelle, voire plus, du Japon en Corée. En deux mots, je cite, « Le Japon est le pays du sentiment et de la forme. Les familles japonaises, surtout celles d'un certain rang de la société, conservent un attachement vif à ces traditions et les considèrent comme un élément essentiel de l'urbanité orientale. » Oui. Donc, il fait publicité, si vous voulez, de ses idées dans un opuscule de février 1938 à l'occasion de la consécration, suite à la consécration du premier archevêque japonais de Tokyo. Et dans ce document, il essaye de montrer que le Shinto civil n'a rien à voir avec le paganisme antique. Il dit qu'il faut rejeter absolument cette formule concernant le Japon. Et il dit que, d'une certaine façon, ces traditions japonaises permettent d'exclure le microbe individualiste qui cherchait à l'intoxiquer sous couleur d'occidentalisation. Donc, d'une certaine façon, c'est un moyen de se retrouver sur un terrain d'une modernité occidentale qui n'est pas en conformité, y compris avec l'enseignement de l'Église. Il évoque l'ardent patriotisme des fidèles japonais et surtout, il considère, il reprend le terme, qu'au Japon, il n'y a pas de racisme au sens du culte du sang et de la race. Voilà, donc il reprend les termes de l'encyclique Mitbrennender Sorge pour l'affirmer très clairement. Il parle d'un saint nationalisme, sans parler du japonais, c'est accolé à un autre moment du texte, mais en tout cas sous-entendu que les Japonais ont un patriotisme qui permet de surmonter un certain nombre de crises actuelle et qui leur permet aussi d'être un rempart contre le communisme. Donc là où il y a aussi une dimension géopolitique assez forte. Alors, l'autre volet important sur lequel je vais rapidement évoquer, c'est la question coréenne. Il y a un promémoria qui est produit par la Congrégation de la Propagande sur la question coréenne parce que un missionnaire coréen de Hawaï envoie un rapport pour demander au pape de protester contre l'oppression culturelle et raciste, pas le mot est pas lâché, mais presque du Japon à l'égard des Coréens. Et donc, dans le cadre de cette réponse, la propagande suit le point de vue de Marella, c'est-à-dire que le Shinto civil est un culte patriotique, les Coréens sont des sujets de l'Empire japonais et que par conséquent, on ne peut que laisser faire et même voir encourager les Coréens à faire œuvre de patriotisme comme les autres Japonais. Donc je passe sur ce point-là. Alors concrètement en Corée, dès les années 1900, on retrouve l'évocation du racisme. Je pense notamment à un bulletin d'émission tout à fait local et à diffusion assez homéopathique où l'on évoque en 1909 le point de vue d'un savant docteur japonais qui veut établir la distinction entre les deux races japonaises et coréennes et dans laquelle dans cette analyse de ce docteur japonais reprise par le bulletin d'émission, les Japonais ont intérêt à se mêler génétiquement avec les Coréens pour éviter une corruption de la race de Yamato parce que c'est un peuple insulaire et qu'on a tout intérêt à ce que la race nippone maintienne sa force et ses qualités physiques et psychiques. Et donc, dans cette perspective, bien entendu, le mariage n'est pas fusion, mais assimilation pour améliorer la race japonaise. Alors, dans ces transferts des notions de race au Japon, on sait qu'il y a l'influence de la pensée allemande, notamment de la philosophie allemande. Je pense notamment à Heidegger. Bon, je renverrai un article ou deux à ce sujet, Heidegger et Watsuji, notamment. En 1938, dernier point, le délégué apostolique fait rapport sur un pacte récent, un pacte culturel entre la France, l'Allemagne et le Japon, qui n'est pas le pacte anti-comintern. Et dans ce, à la suite de ce pacte, le délégué apostolique réagit. Il est reçu le 16 novembre 1938 par le ministère des Affaires étrangères à Rita, devant lequel il rappelle, je cite, « les désastreuses conséquences de la politique nazie anticatholique, spécialement en Autriche ». Donc ça commence d'abord plutôt par la défense des intérêts catholiques. Et il lui remet un mémorandum sur cette question-là. Le ministre lui confirme que le pacte anticominterne vise exclusivement la lutte contre le communisme, que le Kokutai et le Nippon Seishin demeurent inchangés. Et à cette occasion, le ministre reçoit l'opuscule de Marella, Vision d'espoir. Donc il y a un échange d'idées, débat à ce sujet. Alors Marella, dans ce rapport, insiste sur le fait que le pacte anticominterne doit rester un engagement de défense morale contre le bolchevisme. Et il se livre ensuite à une analyse critique du nazisme qu'il compare au marxisme. L'analyse se fonde très certainement donc sur les deux encycliques, Mitbrennender Sorge et Divini Redemptoris sur le communisme. Pour Marella, le primat de l'économie comme celui de la race pour appréhender l'homme sont de fausses routes qui conduisent à l'inhumanité. Et son analyse renvoie à son opuscule dans lequel il s'applique à distinguer la culture et les valeurs japonaises du fascisme. L'idéologie de la race s'appuie pour lui sur la démission de la raison. Je cite, c'est un plongeon collectif dans l'inconnu. C'est, je cite, reprendre une sentimentalité primitive pour s'y enfermer comme dans une coque. Ou encore un infantilisme sénile. Mais Marella s'en prend encore rapidement, je cite, à l'incurie de certains gouvernements à l'égard de la propagande communiste et loue Hitler, je cite, homme de génie, qui a su orienter et exploiter, je cite, ses vertus cachées, le goût d'une vie intense et saine, le sens de l'honneur et de la discipline, le désir de mettre toutes les puissances matérielles au service de la vie humaine. Cependant, il ajoute, méconnaître que toutes ces aspirations se sont développées par des siècles de vie chrétienne, c'est falsifier l'histoire allemande. Donc on va très loin, on parle même d'hygiène racique, on parle aussi des problématiques migratoires, et il refuse de reconnaître que le racisme japonais soit un mauvais racisme. Et justement, on reprend ce que vous avez dit tout à l'heure sur, je dirais, un racisme qui s'inscrit dans une perspective hygiénique et plus ou moins pseudo-scientifique, et un racisme beaucoup plus idéologiquement structuré qui mène à un anti-christianisme, voire un anti-catholicisme. Et là, on retombe sur le volet religieux. Donc, je vais terminer enfin. Si vous voulez, ce que je souhaiterais terminer, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la réaction aussi d'intellectuels catholiques japonais, hein, notamment Kotaro Tanaka, qui était un professeur doyen de la faculté de droit de l'université impériale de Tokyo, qui lui intervient aussi dans ce débat, qui est en opposition à nouvelle réglementation japonaise sur l'université, les mises sous tutelle, etc., etc. Et ce qu'on voit très bien au final, dans cette opération, dans ce qui se passe ici, c'est qu'on voit se superposer, se rencontrer différentes échelles de temps, de gestion et d'intérêt. C'est pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai parlé à partir d'un diplomate. Parce que le diplomate, il a une échelle intermédiaire. Bon, il est confronté à des structures locales de l'Église, les missionnaires, qui eux voient alors qu'ils sont contre le Shinto, mais à 200% Shinto civil. Bon, qui n'aiment pas Marella. Marella s'appuie sur le clergé japonais pour faire une partie de son rapport, qui eux veulent défendre une adaptation. Il essaie de soulager la conscience de Yamamoto Shinjiro. Bon, et au Vatican, il y a le relais de cette expertise. Comment va-t-on valider ça? Est-ce que c'est vraiment le fond qu'on va valider, ou plutôt valider la confiance qu'on a dans ce rapport de Marella plutôt que d'autres rapports qui viennent de missionnaires qui, eux, ont une vision de terrain mais qui sont beaucoup moins crédibles parce qu'ils ont moins d'entrée? Et finalement, ce que je crois, ce qui est très intéressant, c'est qu'une question quand même cruciale du point de vue théologique, du point de vue historique, du point de vue canonique, du point de vue géopolitique, parce que qu'est-ce qu'on fait du Shinto, qu'est-ce que ça a la conséquence en termes de conception raciale mais aussi de géopolitique, eh bien, ça se réduit au fond quand même à la confiance dont bénéficie Marella au Vatican. Et cette confiance, c'est celle que lui accorde le cardinal Fumazoni Biondi tout le long de sa carrière jusqu'au chapeau de cardinal. Et ensuite, en 41, Marella est désavoué par les cardinaux de la propagande parce qu'il oblige l'Église catholique à rentrer dans la loi de 39 sur les corporations religieuses. Il convoque tous les évêques catholiques étrangers, mais les autres, il demande la démission en bloc en 48 heures, donc très rapidement, et finalement, il y a des protestations, il y a une congrégation de cardinaux de la propagande qui se réunit. Au printemps 41, il y en a un qui dit, ben, Marella, il a accepté une constitution du civil pour le, constitution civile du clergé pour le Japon. Donc, il est désavoué, mais il se maintient. Il reste jusqu'après 45. Alors, il découvre les atrocités japonaises qu'en 43, fait semblant de les découvrir. Enfin, c'est compliqué, visite des camps, etc. Donc, c'est tout à fait passionnant. Et ensuite, il est du côté des Américains quand MacArthur est présent et quand on procède à la déchintoïsation constitutionnelle, d'une certaine façon, dans la Constitution de 47. Donc, on voit finalement que des questions religieuses, ici politico-religieuses, qui permettent de comprendre comment l'Église évalue ce racisme, se posent en termes éminemment opportunistes, politiques, diplomatiques, et qu'au fond, on a peut-être parfois davantage des solutions, je dirais, techniques, que des solutions de fond ou des réponses de fond sur des questions cruciales. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Vous avez senti comme on vous écouterait encore avec passion, mais malheureusement, on va revenir cette fois-ci de nouveau en Europe pour écouter Sébastien Carnet, qui nous vient de l'Université de Bretagne occidentale.
Alors avant de commencer, je voudrais remercier Vincent de me permettre de vous présenter un cas très particulier qui, je l'espère, sera malgré tout pertinent. Alors, c'est en septembre 1918, au sortir d'une réunion de l'Action française, qu'un étudiant en architecture et un ancien combattant de 22 ans fondent ce qu'ils nomment le groupe régionaliste breton, auquel, quelques mois plus tard, ils offrent en guise d'organe une modeste feuille appelée Braise à Tao, ce qui était leur traduction de « La Bretagne toujours ». Bientôt rejoint par une quinzaine de jeunes hommes, ce groupe se pose comme, je cite, une avant-garde se proposant de travailler activement au relèvement de la patrie bretonne. Et c'était effectivement ce que ce groupe aura été de 1918 à 1944, après être devenu le Parti autonomiste breton, puis le Parti national breton, après avoir goûté à peu près toutes les expériences politiques du temps, sans jamais rencontrer de succès auprès de la population bretonne. Alors, quelques traits permettent de caractériser un petit peu ces activistes. Ils font partie de ce qu'on a pu appeler la génération sans sourire, c'est-à-dire une génération de jeunes gens qui ont très tôt été marqués par le politique, c'est-à-dire qui ont été élevés, qui ont été enfants pendant la Grande Guerre et qui ont grandi un petit peu prématurément. Par exemple, pendant le conflit, l'un d'eux, Olivier Mordrel, est encore adolescent lorsqu'il est capable d'écrire à un journaliste du journal Le Matin pour le contredire sur une bévue concernant les races dolichocéphales et brachycéphales. Le gamin est déjà assez pointu sur le problème. À l'armistice, ces enfants voués au combat se trouvent privés finalement de ce qui avait donné un sens à toute leur vie pendant plus de 4 ans. Et cette génération sans sourire est également une génération qu'on appelle aussi parfois superflue ou inutile. Génération frustrée de ne pas avoir connu l'expérience irremplaçable du feu et qui trouve dans l'engagement politique finalement de quoi se transcender et de quoi vivre des expériences intenses. C'est donc un complexe de Mars qui explique en grande partie les relations conflictuelles de ces enfants avec leur père qui, eux, ont combattu et dont le sacrifice génère une dette de sang. Finalement, refuser d'honorer cette dette de sang, c'est aussi remettre en cause la filiation et déjà réfléchir à la race que l'on s'imagine incarner. Olivier Mordrel, toujours lui, devient Olivier Mordrel lorsqu'il bretonise et virilise ses noms et prénoms. Plus largement, ne plus supporter l'héroïsme des combattants conduit les jeunes militants bretons à imaginer que si les Bretons ont fait la guerre sous l'uniforme français, c'est qu'ils ont dégénéré. Dès lors, les relations entre religion, race et nationalisme ne peuvent qu'être compliquées, dans la mesure où l'Église catholique, dont l'emprise est évidemment extrêmement forte en Bretagne, est considérée par les nationalistes comme responsable du déclin de la Bretagne, en ayant favorisé l'adhésion à l'Union sacrée, c'est-à-dire la francisation des Bretons et partant donc leur dégénérescence. Donc le relèvement de la patrie bretonne, c'est donc pour ces jeunes gens une tentative de régénérer la race par le combat et de la guider vers un nouvel âge d'or terrestre. Alors ma question, finalement, dans une Bretagne catholique qui est encore très attentive aux préceptes d'une église pour laquelle on pouvait atteindre l'âge d'or qu'au ciel et par la rédemption. Comment cela pouvait-il être possible ? Alors, dans leur redéfinition de la filiation et leur tentative de régénérer la race, les militants nationalistes vont explorer plusieurs voies dont, évidemment, aucune n'aboutit, en fait. Au début des années 20, Olier Mordrel pense que la race est un tout national qui se caractérise par la langue, par des aptitudes sociales, par un génie intellectuel, des traditions, une civilisation. Elle ne se caractérise plus pour lui par la morphologie, parce qu'il pense que les brassages humains sont tels que le métissage, en abaissant le supérieur et en améliorant le faible, a dilué les caractéristiques anthropologiques de chacun. C'est donc par l'apport culturel que l'on peut espérer retrouver ces caractéristiques perdues depuis la latinisation, ou tout au moins masquées par un vernis français. Inaction, centralisme, immoralité, stérilité sont autant de tares qui résument le contre-modèle du celte que chaque Breton doit réveiller en lui. Ce réveil, cette régénération de la race, sont censés se faire au contact des Gallois, des Écossais ou des Irlandais, ou en tout cas par l'étude de leur culture. Le panceltisme, dit Mordrel, nous fera sortir de notre ambiance pétrifiée. Il nous plongera dans un courant de vie intense qui réveillera un génie, une sensibilité et un caractère endormi, abruti par une trop longue servitude. Il fera de nous des Celtes intégraux, c'est-à-dire des hommes faisant figure d'hommes et capables d'accomplir sur terre, sous le regard de Dieu, œuvre humaine. En fait, en voulant créer un homme nouveau, Mordrel voulait faire œuvre divine sous le regard humain. Mais chacun comprend très vite que la régénération par le panceltisme ne fonctionne pas. Juste un exemple, les relations nouées avec les Gallois en 1923 tournent très très vite court, en partie pour des questions religieuses notamment. En effet, outre-Manche, le protestantisme supporte assez mal de voir de jeunes Galloises s'intéresser d'un peu trop près à de jeunes militants bretons qui, manifestement, n'entendent pas dissocier la politique raciale d'un panceltisme horizontal. Très tôt, il semble donc que le christianisme s'accorde mal avec les projets raciaux celtiques. Cet échec est d'autant plus patent que les contacts pris avec les étudiants flamands au même moment, puis avec les autonomistes alsaciens par la suite, s'avèrent, eux, très prometteurs et conduisent l'équipe de Brice Attao au fédéralisme international en passant par la gauche. Alsaciens et flamands sont considérés comme des frères de sort, puisque eux aussi sont soumis au joug latin. Et bientôt, il sera opportun de concevoir qu'ils sont aussi des frères de sang parmi les peuples nordiques. En effet, à l'été 1932, Olier Mordrel visite l'Allemagne et il en revient enchanté. En quelques semaines, il élabore un programme politique intitulé « Saga », le nom est assez intéressant, « Saga », alors c'est du breton « Strolad Arkeltet Adsalvet », c'est-à-dire le parti des bretons réveillés. Savant mélange de propositions non conformistes de l'ordre nouveau, si vous voulez, et puis du programme nazi, pour faire simple. Donc c'est un programme qui ne cache pas sa fascination pour le nordisme, qui avait été proposé à Brice Attao au début des années 20 sans rencontrer de succès. Alors face à la latinisation, le rempart est désormais, je cite, « le retour des peuples du Nord à leur tradition ethnique ». Prudent, Mordrel envisage de garantir la liberté de conscience dans son programme et de religion, sous réserve, dit-il, du respect de l'effort national. Tout en insistant quand même sur le respect de la foi chrétienne comme étant la seule base et de moralité de la spiritualité de notre peuple. Mais à y regarder de plus près, il est clair qu'il s'agit là d'une clause destinée à rassurer les catholiques du parti, qui sont quand même assez importants. En fait, Mordrel prévoit d'exclure des postes à responsabilité publique tous les étrangers, surtout les latins et les gens de couleur. Alors évidemment, les nordiques ne sont pas concernés, mais lorgnant ainsi sur Berlin, il ne pouvait finalement qu'entrer en conflit plus ou moins long terme avec Rome. Sans être réellement rejeté, son programme n'est pas adopté par le parti. Cependant, Mordrel a des disciples, et parmi eux, Célestin l'Aîné. Alors, l'Aîné est un catholique pratiquant, sujet à des crises mystiques pendant son enfance. Il a été plusieurs fois tenté par la prêtrise avant d'intégrer le mouvement breton. Et à partir de 1934-35, il commence progressivement à se défaire de sa foi chrétienne au profit d'une philosophie personnelle qu'il appelle foi celtique et sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Alors pour l'Aîné, les choses sont claires. Dans un article qu'il livre au début de l'année 37 à la revue Stur, la revue doctrinale de Mordrel, Il défend l'idée d'une Bretagne incorporée à la voûte nordique, dont les deux bases seraient l'Irlande et la Prusse. Germains et Celtes, assure-t-il, sont de sang identique. La Bretagne est donc partie intégrante de l'unité raciale hyperboréenne politique. Il écrit « Sur nos deux bases, l'Irlande et la Prusse, relevons-nous assurés de réaliser notre idéal le plus profondément ancré dans notre sang, le nouvel empire du Nord qui repoussera les gens de l'Est et du Sud et brillera sans pareil sur toute la planète. » Alors pour lui, l'Irlande, c'est moins le catholicisme que l'IRA, parce qu'il pose aussi quelques bombes à l'occasion. Et pour qui savait lire entre les lignes, un empire nordique ressurgi du fond des âges ne pouvait qu'être païen. Dès 1934, Célestin l'aîné est l'ami de Gerhard von Thévenard. Alors Thévenard est un jeune celtisan allemand, il est agent de l'Abwehr 2, il est, selon Mordrel, le commis voyageur de la révolution ethnique, c'est intéressant comme appellation. Il est proche de l'Annenerbe, institut scientifique de la SS, et donc il est rompu aux théories raciales de Hans Günther, par exemple, surnommé Günther la race en Allemagne. Et c'est lui qui promeut en Bretagne l'idée d'un Reich nordique dominant une Europe hiérarchisée. Alors jusqu'à la fin des années 30, jusqu'à 1937, les propositions racistes de Mordrel et de l'aîné ne provoque aucune réaction, finalement, ni dans le mouvement breton, ni ailleurs. Alors certes, en 1927, Monseigneur Duparc, l'évêque de Quimper, avait multiplié les condamnations à l'encontre de Breiz Atao, mais c'était surtout la neutralité religieuse des militants bretons qui le condamnait et qui l'avait conduit à rejouer un petit peu la condamnation de l'action française à l'échelle locale. 10 ans plus tard, Raymond Delaporte, militant breton, catholique très pratiquant pour le coup, avoue, si Breiz Atao se fait condamner par Rome comme l'action française, je démissionne. C'est en effet ainsi que Delaporte comprend l'encyclique Mein Brennender Sorge. Alors l'article de l'aîné dont je parlais tout à l'heure est publié en Bretagne au même moment que l'encyclique commence à être connue. Et Delaporte réagit immédiatement dans Breiz Atao pour condamner finalement l'invasion du mouvement breton par les théories racistes, alors qu'il l'attribue à Rosenberg, lui. Il condamne, je cite, les attaques plus ou moins voilées contre la morale chrétienne. Le breton, dit-il, n'est pas l'homo nordicus. Immédiatement, ce militant très dynamique quitte le parti, ce qui est dommage, puisqu'il est aussi un pourvoyeur de fonds non négligeables. Enfin, il est clair que ce type de personnes représente un peu des notables locaux, des figures, des bourgeois de bourg qu'il faut convaincre. C'est tout un symbole, finalement, qui accompagne son départ. Et tout le monde comprend que ce qui est visé ici, c'est la revue Sture et son directeur Mordrel. Alors Mordrel réagit immédiatement et cherche à amadouer Delaporte pour le faire revenir, tout en défendant ses positions. Et c'est là qu'il se met à théoriser un racisme breton qui, selon lui, diffère du racisme allemand, trop attaché à des critères morphologiques. Alors il est malin, puisqu'il donne une terminologie en langue bretonne à son racisme breton. Or, il sait pertinemment que pour l'Église bretonne, la langue est considérée comme l'ultime rempart contre les néfastes influences extérieures. De la même manière, il doit aussi s'appuyer sur des témoignages de chrétiens, voire du clergé lui-même. Alors il publie la lettre anonyme d'un catholique averti, je suis persuadé que c'est lui-même qui a écrit cette lettre-là. Alors, ce catholique averti pense que la polémique, finalement, résulte d'un climat néfaste entretenu par les juifs et bolchevisants de tout poil. Le racisme breton ne peut être admis de la religion catholique. Mordrel, très malin, arrive à capter des textes qui, a priori, le contredisent. Alors, il cite l'encyclique, bien sûr, mais il cite aussi le cardinal Faulhaber, dont il était question tout à l'heure, dans son sermon « Christianisme et germanisme ». Alors, il choisit évidemment quelques extraits. « Du point de vue de l'Église, il n'y a aucune objection à faire aux recherches raciales conduites objectivement, non plus qu'à la culture de la race, etc. » Et Mordrel conclut « Il existe donc un racisme catholique, et ce serait se montrer parfaitement ridicule que de vouloir passer pour plus catholique que le pape, et de prétendre être meilleur défenseur du catholicisme en Allemagne que le cardinal Faulhaber. » Mais il n'est pas entendu. Ce qui ne l'empêche pas de chercher la réconciliation pendant toute l'année 1937. Alors, un de ses leviers, c'est ce livre, « Le règne de la race », dont il fait une recension dans Breiz Atao. argument de poids, puisque ce livre a été écrit par l'abbé Jean-Marie Gantois, un nationaliste flamand, et qui est ami du mouvement nationaliste breton. Gantois expose dans cet ouvrage le christianisme positif qu'il a découvert dans le mythe du XXe siècle de Rosenberg, un christianisme évidemment compatible avec le racisme. Sous le titre « Racisme biblique », le sixième chapitre du livre entend dénoncer l'antagonisme qu'on a voulu trouver entre le christianisme et le particularisme ethnique. Gantois cite en particulier un article publié dans la mouvance de l'Université de Louvain. La doctrine du racisme est celle de la rédemption de la nature humaine par ma conscience que celle-ci prend de sa volonté de devenir elle-même. Elle exprime la force de l'homme germain et nordique, type le plus parfait de l'humanité. Elle admire le germain puissant et pur, se dressant joyeusement comme un héros à la victoire. Le catholicisme, lui, est la religion du triomphe et de la victoire. Nous ne méprisons pas la nature humaine. Nous croyons certes qu'elle est affaiblie par le péché, mais aussi que par la nouvelle naissance de la grâce, elle est rendue capable de former dans le Christ une race nouvelle et sans tache, prête au combat et sûre du succès. Dans cette optique, évidemment, pour Gantois, le racisme est une façon de préserver la création. Alors lui aussi rappelle Noé, sa descendance, ce genre de choses. Et il conclut, c'est dans l'Ancien Testament que la race blanche trouve le fondement historique de sa mission, la charte de ses droits, que demander de plus à l'Église ? Du coup, le racisme mis en application par le nazisme était fatalement le dernier espoir du christianisme et de la civilisation contre le communisme. Les choses évoluent en 1938. Le païen Célestin Lainé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et quelques-uns de ses amis sont jugés pour avoir barbouillé les murs de Bretagne de divers slogans. À la barre se présente l'abbé Perrotte, un prêtre extrêmement populaire dans le mouvement breton, et qui vient témoigner en faveur de ses enfants spirituels. C'est ainsi qu'il les présente. Donc tout le monde comprend que l'heure est à la réconciliation. En témoigne, par exemple, l'article « Race et racisme » que donne l'abbé Pierre-Jean Nédélec à la revue « Var du Harpal », une revue que Delaporte avait créée en concurrence avec Mordrel. Alors l'abbé ne cherche pas à condamner le racisme, mais les excès auxquels il peut conduire. Il écrit nous ne nous contenterons pas de réprouver les aberrations où tombent certaines théories racistes d'aujourd'hui, mais nous essaierons de mettre en relief les solutions positives du droit naturel en harmonie avec la loi divine et respectant aussi bien la responsabilité et la dignité humaine que les justes requêtes du bien temporel de notre peuple. On retrouve des choses dont on a déjà parlé tout à l'heure. Mais finalement, on croirait entendre aussi, d'une certaine manière, du Mordrel chuchoté dans une sacristie. D'ailleurs, l'abbé Nédélec s'appuie également sur les travaux de Hans Günther pour constater l'existence d'un type nordique et constater également la dédandisation. Ce qu'il conteste, c'est la confusion entre race et nation, telle qu'il la voit en Allemagne, au point d'établir une religion du sang. Malgré ça, il n'est pas étonné, outre mesure, de la contagion des idées allemandes qui gagnent la Bretagne. Et loin de condamner le racisme breton de Mordrel, il l'envisage finalement avec bienveillance et prévoit dans un article à venir de l'étudier plus en profondeur. L'article était prévu pour l'automne 1939, la guerre éclate, et finalement il n'a jamais été écrit. Donc finalement, le problème n'est pas réglé, mais Mordrel a une poignée de fidèles finalement partisans du racisme breton. Alors cette poignée de personnes se retrouve autour de Célestin Lainé. Alors Lainé, je reviens sur lui, très très vite avait compris qu'en Bretagne, le christianisme était une contradiction irrémédiable avec sa vision, sa propre vision de la Bretagne et des Bretons. Pour lui, Mordrel se trompe, c'est pas un racisme original qu'il faut proposer à la religion catholique, mais bel et bien une religion nouvelle à la race nordique. Dès 1934, posant les bases de sa foi celtique, il assurait que les Bretons n'étaient plus dignes de leurs ancêtres guerriers d'avant le christianisme. Je cite « Nous pardonnons à nos ennemis et par suite nous ne savons plus ce qu'est la fraternité dans la vie et dans la mort ». Donc pour retrouver la foi celtique perdue, l'aîné prône l'action, je cite « la force violente des Nordiques ». Une force nécessaire, sans état d'âme, il prône le nordisme qui permet de définir un ennemi. Il prône aussi l'ignorance du mal et donc du bien. Sans doute, il a lu Nietzsche et il a fait sienne donc une volonté de puissance incompatible avec le christianisme. Il explique « Nous prenons le monde tel que Dieu nous le présente. Nous reconnaissons avec modestie et respectons ses lois dont la première est celle du triomphe des meilleurs, des plus puissants. Nous y collaborons selon les particularités de notre race. Nous nous méfions du messianisme des Juifs et leurs semblables qui prétendent corriger et réviser l'univers en abolissant les lois imparfaites de Dieu. N'est-on pas allé jusqu'à prétendre vouloir extirper la violence de la surface de la Terre, transformer l'humanité en une vaste bergerie pacifique et monotone, folie impuissante et blasphématoire ? D'accord. Pour lui, la soumission au message évangélique est donc la cause de la déchéance des Celtes et de la soumission des Bretons à la France. Il faut donc s'en défaire, c'est logique. Il jette au brouillon quelques idées. Spirituellement, nous séparer de l'Église de Rome, prévoir un schisme et l'avènement d'une Église celtique. Alors, par l'intermédiaire de l'abbé Gantois, qu'il connaît, il découvre Maître Eckhart, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Et par l'intermédiaire de Fontevenard, il découvre aussi donc, les théories et la piété de la race nordique de Hans Günther. Il fait la synthèse de tout ça et théorise donc sa foi celtique. Alors, le fidèle de sa foi celtique, c'est un homme de foi en même temps qu'un guerrier, autrement dit un druide, un moine guerrier, si vous voulez, meilleur serviteur d'un dieu voué à l'élaboration d'une race supérieure. Dans une sorte de credo, il écrit « Nous croyons qu'il nous a créés celtes pour que nous défendions et accroissions la puissance de la Celtie, que nous lui gagnions de la gloire, que nous donnions le bon exemple à nos frères, que nous fassions fleurir en nous et autour de nous les qualités qu'il a confiées à notre race. Nous croyons qu'ainsi, nous collaborons avec lui à l'œuvre de sa création et qu'il sera heureux et fier de nous avoir pour fils et qu'il nous traitera en toute occasion comme un père traite ses enfants préférés. » Alors on n'est pas très très loin dans tous ces propos-là du réalisme héroïque de Werner Best et Ernst Jünger, pour qui il ne s'agissait plus de vouloir transformer le monde, hein. On prenait le monde tel qu'il était et on faisait avec. Donc là il y a une nouvelle vision du guerrier qui apparaissait, pour qui la victoire n'était pas importante, seule la lutte comptait pour elle-même. D'ailleurs, dans Le Travailleur, 1932, Jünger écrit « Nous voyons naître ici une sorte de garde, une nouvelle colonne vertébrale de l'organisation combattante, une élite que l'on peut qualifier aussi l'ordre ». Et cette idée d'ordre intellectuel, finalement, traverse le début des années 30 et l'aîné s'en inspire aussi pour créer donc, un petit groupe militaire, paramilitaire, qu'il appelle le « Kaderven », en breton « le sillon de combat ». Donc, qui deviendra dans les années 40 le service spécial, donc SS breton, embryon pour lui d'une future armée bretonne. Alors pour le public, ce service, c'est le service militaire breton, mais pour les gens qui s'y trouvent, il regroupe clandestinement ce qu'il appelle les hommes du dieu de la croix celtique ou ceux de la religion de nous, ce qui suppose aussi un « eux ». Alors à cette communauté clandestine, l'aîné veut imposer quelques règles, la pauvreté, le silence également, une hygiène de vie irréprochable, alors une façon celtique de marcher, j'ai toujours pas compris comment on fait, autant de signes extérieurs finalement qui distinguent une race de maîtres, une aristocratie de seigneurs, les blancs du Nord, de leurs ennemis, les, je cite, gens de toute langue et de toute couleur qui, selon l'aîné, donc, abondent dans la religion catholique et dans l'État français. Cette communauté a bien sûr son messie, en la personne de Gerhard von Thévenard, dont je parlais tout à l'heure. Alors, on le présente comme un pêcheur d'hommes, hein, qui vient délivrer le message de la construction nordique. Et il a, pour mérite, si je puis dire ainsi, de mourir alors qu'il a un peu plus de 30 ans. Donc là, il y a un parallèle très très vite dans la tête de l'aîné qui est construit avec le Christ. Et dans la foulée, 5 jours après sa mort, l'aîné rédige les statuts d'un ordre monastique dans lequel il veut rassembler ses hommes. Alors il écrit notamment « Le jeune homme se marie pour faire beaucoup de bons enfants celtes. Sa principale obligation devient alors d'entretenir sa famille et son travail d'élever ses enfants et ses filleuls dans les manières celtiques. » Alors, le modèle de l'aîné, c'est Friedrich Hilscher, qui est un proche de Jünger, qui est une figure un peu originale de la révolution conservatrice allemande, et qui, dont Thévenard était un des sectataires. Et Hilscher a créé une petite communauté, l'Église libre indépendante, dont il se disait le prêtre-roi. Donc il baptise, il préside diverses cérémonies, il rédige des prières et propose un paganisme un peu original. Bon, je ne rentre pas dans les détails, j'ai pas franchement le temps. Alors l'aîné fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il reprend les prières allemandes, il les traduit en breton, il adapte aussi les cérémonies à la manière un petit peu druidique, pense-t-il. Il rédige aussi également un calendrier. Alors, chose intéressante, il le fait commencer à l'automne 1934, au moment où Thévenard est arrivé en Bretagne, donc c'est vraiment le Messie, hein, pour le coup. une dizaine d'années plus tard, cette foi qui est devenue nordique entre-temps, totalise 13 personnes. 13 personnes dont un messie décédé, on ne saurait mieux fonder une foi. Or, bien que ces pratiques soient confidentielles, on en parle quand même un petit peu dans le mouvement breton et ça inquiète. À l'été 1943, sentant le vent tourner un petit peu, Mgr Duparc défend à tous les prêtres de donner l'absolution aux militants nationalistes bretons, à moins qu'ils ne se rétractent. C'est donc leur excommunication, qu'ils prononcent. Et pour mieux rassurer les sympathisants quant à l'orthodoxie du parti en matière religieuse, l'abbé Perrotte, qui était un des protecteurs de l'aîné au départ, va jusqu'à condamner le paganisme de celui qui le considérait comme son fils spirituel. Perrotte est bientôt tué par la résistance et l'aîné, le jour de l'enterrement, procède à des rites païens sur le cercueil du prêtre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là, Célestin l'aîné, le grand druide, rencontre Mgr Duparc dans la sacristie et évidemment, il baise l'anneau de l'évêque. De fait, la foi celtique était mal partie, on n'a jamais vu un prophète se soumettre à un évêque. Alors, très très brièvement, pour terminer là-dessus, ces hommes se retrouvent embrigadés dans une petite troupe supplétive de l'armée allemande que le SD de Rennes utilise dans la lutte contre la résistance. À la libération, évidemment, tout ce beau monde fuit vers l'Allemagne et progressivement, alors désertion, la troupe se délite énormément et puis il ne reste plus qu'un noyau de fidèles au bout d'un moment. Les Celticards, comme on les appelle, qui font l'objet du mépris des catholiques. Et une bonne partie d'entre eux réussit à passer en Irlande et progressivement, on voit finalement la religion de l'aîné disparaître. À la fin, il n'y a plus que lui à y croire. Encore à la fin de ses jours, il se prenait pour un concurrent du Christ. Mais très très vite, finalement, le souvenir de cette foi celtique a complètement disparu dans le mouvement breton. Plus personne ne sait ce que c'est. Alors au moment de conclure, on ne peut que constater un double échec. Celui de la localisation d'un racisme par Mordrel et celui de la racialisation d'un universalisme par l'aîné. En Bretagne, en fait, l'explication la plus simple à donner, c'est que le catholicisme était trop fort et que la réelle capitale de la Bretagne n'était pas Rennes, comme on pourrait le croire, mais bel et bien Rome. D'ailleurs, il est assez intéressant de constater que c'est dans la tricote catholique Irlande que l'aîné trouve refuge et échappe à la peine de mort. Et alors que Mordrel, de son côté, lui, est hébergé pendant plusieurs mois chez les frères des écoles chrétiennes à Rome, et c'est la filière vaticane qui lui permet de passer en Argentine. Donc ça, c'est une explication. Mais il y en a peut-être une autre, finalement, encore plus simple, pour expliquer l'échec du projet racial de ces personnes-là. C'est encore, finalement, qu'il n'y avait tout simplement personne à régénérer, ni les Bretons, ni qui que ce soit. Je vous remercie.
Alors on a donc 10 minutes pour un début de conversation et le reste de la conversation sera autour d'une table. Oui, madame. S'il vous plaît, des questions.
J'ai plusieurs questions à Dominique, Monsieur Dominique, Monsieur Olivier Sivre. Alors d'abord, c'est la question méthodologique. Pourcentage de catholiques au Japon est moins d'1% encore, et puis d'appeler fameux l'historien de religion à l'Université de Tokyo, Shimada Hiromi, en fait, ce chiffre est déjà 3 fois plus que le taux de christianisme avant-guerre. Donc, en fait, s'appuyant sur le document notamment écrit par les ecclésiastiques catholiques, comment vous pouvez expliquer l'état du shintoïsme au Japon de cette époque? Et puis, pour cela, en fait, cet ancien professeur Romain Bertrand de Sciences Po a proposé une méthodologie très intéressante dans son livre « L'histoire à part égale ». En ce qui concerne le mauvais contact, bon contact de plusieurs civilisations, il propose d'utiliser les documents de tous les deux côtés et comparer le fait qu'ils ne se croisent pas du tout les points de vue. Donc, en fait, oui, ça dépend de ce sujet de l'histoire, mais s'il y a le document, en fait, ce serait très intéressant de regarder aussi, le point de vue des Japonais de cette époque, du gouvernement, il y a le ministère de Shinto aussi, et puis Coréen aussi, je pense. En Corée aussi, il y a énormément de documents, à mon avis. Et puis, en ce qui concerne l'utilisation de Shinto civil, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de cette époque, et ni spécialiste de l'histoire de religion au Japon. Je ne suis pas spécialiste de la religion au Japon, mais moi, je connais plusieurs personnes qui sont un spécialiste francophone, et puis Shinto civil, je n'ai jamais entendu utiliser, malheureusement. Et puis, comme au cours des colloques, on avait une chance de discuter sur le concept nomade. Et le christianisme aussi, protestant aussi, Lucie a expliqué ce matin que le protestantisme aussi, même sur le terrain de germanophone, il y a plusieurs aspects, écoles, courants. Donc, le shintoïsme, il y a Ryobu Shinto, Ise Shinto, Yoshida Shinto, plusieurs sectes. Donc, avec ce mot Shinto civil, qu'est-ce que vous voulez désigner exactement? Et puis, en fait, quel était le mot d'originaire en japonais? Parce que c'est moi, je m'intéresse beaucoup la méthodologie de traduction et d'Elisa, de Spivak. Moi, ça m'intéresse beaucoup comment ça se traduit avec le mot civil. Déjà, le civil, c'est concept nomade. Et puis, d'autres choses, c'est que vous avez utilisé beaucoup document écrit par un chrétien, Yamamoto Shinjiro. C'est un des chrétiens intellectuels de cette époque, à mon avis, mais pour analyser le christianisme avant-guerre, il y a Uchimura Kanzo, Yanaihara Tadao, Uchiwara Shigeru. Il y a beaucoup plus de personnages qui avaient énormément d'influence à la société japonaise de cette époque. Donc, si au fait, vous voulez utiliser le document de Yamamoto Shinjiro.
Excusez-moi, je voudrais pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, ah oui, ça parce serait que bien de dédoubler.
Vous n'avez pas noté?
Non, mais je pense qu'on va
peut-être essayer de... Oui, je suis désolée parce que je pensais que vous êtes...
Non, non, mais je vais répondre. Donc, oui, allez-y.
Oui. Donc,
parce qu'on lui avait donné que 20 minutes, vous voyez bien.
Oui, mais j'essayais de se dépêcher de synthétiser, mais est-ce que ce n'était pas clair?
Si, c'est parfait.
Non, c'est clair, c'est clair.
Oui. Si, simplement, il y a d'autres questions dans la salle, alors il va vous répondre d'abord.
Oui.
Allez-y, répondez. Parce que...
Alors, tout d'abord, j'ai bien expliqué que ce que je vous ai présenté, c'est à partir de la documentation des missions et du Vatican. D'accord? Eux utilisent le terme de Shinto civil. D'accord? Je ne veux pas rentrer dans la question technique de la traduction. Je ne suis pas japonologue et je le dis très clairement. Donc moi, ce que je fais ici, c'est simplement vous présenter comment le Saint-Siège, ses diplomates et les contacts qu'ils ont eus localement ont conduit à cette présentation. D'accord? Et donc on trouve Shinto civil, Jinja Shinto. Ensuite, il y a la présentation de la législation. Moi, je peux pas rentrer, si vous voulez, dans le détail de la définition du Shinto. Je vous le dis, je n'irai pas plus loin sur cette question-là parce que je ne suis pas compétent, je le reconnais volontiers, pour rentrer sur la documentation à ce sujet du point de vue japonais ou coréen. Encore que coréen, c'est encore autre chose. Bon. Donc, effectivement, il y a intérêt à croiser. Mais croiser, ça veut dire, à mon sens, croiser aussi bien des spécialistes du Japon local, de la Corée locale, ça veut dire des coréanologues, des japonologues, des historiens, des sociologues, des anthropologues, mais aussi des spécialistes de l'Église romaine. C'est encore autre chose en termes d'archives, si vous voulez, de consultation. Ça suppose effectivement une certaine expertise et une analyse critique des documents diplomatico-théologiques et canoniques. Donc ça, c'est mon champ, si vous voulez, ma compétence. Donc je ne m'aventurerai pas sur l'autre point. Concernant le transfert des idées, j'ai parlé de Yamamoto Shinjiro. Vous savez pourquoi j'ai parlé de lui? Parce que c'est une figure catholique qui a un poids très grand dans l'organisation du catholicisme laïque au Japon, qu'il a ses entrées à Rome, qu'il vient très tôt à Rome en 1904 et qu'il rencontre le pape parce qu'il est en mission à ce moment-là en Italie. Et donc c'est une personnalité qui a beaucoup de poids dans l'évaluation par le diplomate du Saint-Siège de ce qui se passe au Japon. Vous comprenez, j'entends bien qu'il y a d'autres spécialistes du christianisme locaux, etc. Vous en avez cité un certain nombre. Mais si vous voulez, moi, pour que je vous dise qui a influencé l'expertise, je suis obligé de prendre quelqu'un qui a fourni cette expertise. Et il l'a fourni, on retrouve dans les archives de la propagande FIDE, le ministère qui s'occupe des missions et donc qui gère aussi le Japon et la Corée, la Chine et d'autres pays. Ce Yamamoto Shinjiro a fourni un rapport complet sur l'étude, en français d'ailleurs, le rapport est complètement français parce qu'il sait parler français, il est francophone, il apprend le français à Hirohito, et il vient, le prince Hirohito, lorsqu'en 1920-1921 il fait une tour, il est en Europe, il fait un voyage en Europe, il accompagne d'ailleurs Hirohito. Donc si vous voulez, il a un poids de ce point de vue-là. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut essayer de resituer les choses en termes d'échelle et d'expertise. Là, je m'en tiens à l'Église romaine. Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant l'évaluation croisée de ce que peut être la religion au Japon. À soi tout seul, la question de la religion au Japon, c'est un fleuve sans fin. Et donc, je vous assure, je ne prétends aucunement conclure là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je m'en tiens uniquement à ce que peut éventuellement apporter le point de vue catholique, le point de vue de la diplomatie vaticane, éventuellement si le Vatican a transféré son expertise des questions théologiques, sur la vision théologique du racisme et autres canoniques sur le Japon, et ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, Mgr Marella, il fréquente un certain nombre de Japonais qui ne sont pas forcément les Japonais dont vous me parlez, parce que lui, il a fréquenté des diplomates à Washington, qui étaient des diplomates japonais, dont certains qu'il retrouve ensuite au Japon. Il faut bien se mettre d'accord sur une chose, c'est que l'Église catholique n'a pas qu'une vision locale du catholicisme, elle a une vision globale dans laquelle elle insère aussi le catholicisme japonais. Et lorsqu'elle évalue à travers son diplomate ce qui se passe au Japon, elle évalue à l'échelle aussi globale. Donc, si vous voulez, c'est ce que moi j'essaye d'apporter. J'espère que je réponds un petit peu à votre question. Voilà.
Attendez, dans la salle, il y a encore une question. Oui, s'il vous plaît.
J'ai une question transversale.
Eh bien, c'est parfait.
Sur l'Italie et sur la Bretagne. Je me demandais si entre les idéologues bretons et la papauté et les acteurs individuels ordinaires, vous avez rencontré des organes intermédiaires comme l'Action catholique ou comme des syndicats en Bretagne qui ont deux différentes traditions, CGT et CFDT, qui auraient pu favoriser ou poser des obstacles au positionnement par le haut, disons, hein. Voilà. En Italie, il y a eu aussi la jeunesse fasciste avec des encadrants qui, voilà, qui créent des liens. Donc, je me suis posé des questions de ce type.
Moi, je réponds très, très rapidement. Oui, oui. Il y en a beaucoup. On a, bon, je parlais que du Saint-Siège, donc le pape, la Curie romaine, tout ce qui passe à Rome. Mais après, on a les épiscopats nationaux. La clergé, l'Action catholique, les écrivains catholiques, la presse catholique. Donc, on a beaucoup de points de vue. Moi, je me suis limitée juste au Saint-Siège, mais c'est un point de vue qui n'est pas celui de tout le monde catholique, comme je disais tout à l'heure. Et les positions sont vraiment différenciées. Il y a qui justifie l'antisémitisme, le racisme, qui est plus fasciste qu'il ne... oui, bien sûr. Ouais.
Ouais. Monsieur Carnet, vous voulez répondre. J'aurais voulu d'ailleurs ajouter, est-ce qu'il reste une trace de tout ça après la Deuxième Guerre mondiale et même aujourd'hui, ou est-ce que ça, tout ça a sombré corps et bien?
Alors, en fait, entre les nationalistes bretons, d'un point de vue religieux, hein, et Rome, il n'y a pas de relais. C'est-à-dire qu'entre eux, il y a la hiérarchie catholique bretonne qui, elle, est régionaliste, et donc prône l'intégration de la petite patrie dans la grande, et qui forme un obstacle, finalement, entre les deux. Et une solution qui est peut-être proposée à un moment, à la fin des années 30, un militant propose d'établir un concordat entre Rome et un éventuel État breton. Alors, donc il est rédigé, mais je ne sais pas s'il a été adressé à Rome. Ouais. Et alors, quant à ce qu'il en reste aujourd'hui, de la foi celtique, non, plus rien. Par contre, dans certaines mouvances nationalistes assez dures, on se revendique assez volontiers de ces gens-là. Ouais.
Est-ce qu'il y a une action catholique japonaise?
Oui, il y a une action catholique japonaise. Et d'ailleurs, Yamamoto Shinjiro a été le chef de l'action catholique japonaise dans les années 20. C'est pour ça que j'en ai parlé. Voilà.
Et pour confirmer ce qu'on disait tout à l'heure sur la religion japonaise, on a bien évidemment trouvé les frères de l'empereur, qui sont des très bons hébraïsants. Et tous les ans, au Centre de recherche français de Jérusalem, on voyait débarquer un ou deux Japonais. Et heureusement qu'il savait l'hébreu, parce que notre japonais était un tout petit peu basique encore. Vous avez demandé la dernière question. Allez-y.
Mais vous voulez...
Oui, oui.
Ah. Non, non, on le refera. Non, 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 non. Non,
juste une information, petite information.
Je vais parler d'après...
Alors, une information.
En fait, oui, juste une petite information, en fait, question, en fait. Comment vous pensez... En fait, vous avez parlé du racisme du gouvernement japonais au-dessus au-dessus du Vatican.
Je n'ai pas parlé du racisme du gouvernement japonais. Je ne crois pas avoir dit ça. J'ai dit le problème de la race ou ce qui pourrait être une vision raciale des relations entre les peuples d'Asie. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est intégré comme mot, comme élément d'étude, de compréhension dans les publications et la perspective du Saint-Siège.
Oui,
d'accord ?
Parce que...
Alors, pour terminer, parce que je ne voudrais pas que ça soit polémique, mais vous voyez ce document, d'accord, qui vient des archives vaticanes.
Oui, c'est impressionnant,
voyez,
très bien étudié, voilà. C'est fantastique.
Non, mais vous avez du matériau. Vous voyez ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué « Ponenza sul senso di alcune cerimonie patriottiche e civili giapponesi ». Et là-dedans, vous avez le Shinto civil, d'accord, ou les Jinja Shinto. Et donc, c'est présenté comme tel. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est qu'on ait des chercheurs japonais qui puissent travailler avec d'autres chercheurs qui travaillent sur d'autres fonds d'archives et qu'on développe une collaboration méthodologique et linguistique pour comprendre ça. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point.
Pour pas que le repas prenne des dimensions trop, trop restreintes, sauf, madame, à côté, si vous voulez vraiment poser une question.
Oui.
Alors, allez-y. Une petite question.
Très
bien.
Très brève. Et c'est pour Rafaela Perrin. En Espagne, avec le régime de Franco, national catholique, l'Église était monogéniste. Mais il avait beaucoup de livres bien acceptés sur les hiérarchies des nations. Et je crois que le monogénisme n'a pas toujours été pour l'égalité des nations. Donc, on peut être monogéniste et hiérarchique.
Oui, on peut être tout ce qu'on veut dans l'Église catholique.
Bon, je crois que l'Église au national catholicisme de Franco était monogéniste comme l'Église, mais très hiérarchique, parce qu'il avait beaucoup de pamphlets hiérarchiques entre les nations, et des pamphlets et des images aussi.
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord.
Merci beaucoup. Merci aux intervenants et à l'enthousiasme de la salle. Et...